talmudique. Composée de 5 livres, la Torah possède différentes appellations, dont celle des 5 livres de Moïse. Inspiré par Dieu selon la tradition, Moïse en serait l'auteur en totalité ou en partie, ou selon les historiens et la critique biblique, la figure centrale d'un texte écrit au fil des siècles par différents auteurs. Figure du législateur donnant une loi à un peuple, dans le cadre d'une alliance avec un Dieu qui s'est révélé au mont Sinaï et tout au long d'une grande saga se terminant par la mort de Moïse à l'âge de 120 ans. Mais qui est cet homme? Que nous lègue son histoire? En quoi sa vie, commentée par la tradition, la philosophie, par les sciences de l'histoire et les sciences humaines, nous aide à mieux appréhender des modèles politiques et de société dont les enjeux sont importants à comprendre pour construire le monde d'aujourd'hui et de demain? Comment entendre cette histoire dans notre temps? Quel est le temps de Moïse, ce temps démultiplié, où le sens des choses se construit en des constellations multiples, où l'on peut entendre un texte d'une façon qui n'a jamais été entendue, en faire une lecture sans peur, libre et libérée, riche d'oppositions, de distinctions et d'allers-retours dynamiques dans l'histoire de Dieu, des hommes et des idées. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Jacob Rogozinski, professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg, qui vient de consacrer un ouvrage important intitulé « Moïse l'insurgé » qui paraît aux éditions du Cerf. Jacob Rogozinski, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Watnin.
Jacob Rogozinski, comment le philosophe que vous êtes, connu pour ses travaux sur Kant, la phénoménologie, Artaud et Derrida, et sur les questions du politique, de la violence et de la mort, en est-il venu à s'intéresser à cette figure de Moïse et en proposer le portrait à partir d'une lecture très précise du texte biblique et des résultats les plus récents des sciences historiques qui incluent l'archéologie, une lecture que vous revendiquez comme une sortie du ghetto des textes, une expression qui mérite commentaire car je pense qu'elle peut mal être interprétée, Jacob Rogozinski.
Tout à fait. Comment j'en suis venu à m'intéresser à Moïse? Je dirais que je n'en suis pas venu. Enfin, Moïse m'a toujours accompagné. J'ai appris l'hébreu quand j'avais 7 ans, comme beaucoup de jeunes juifs, hein, pour préparer ma bar mitzvah, etc. Donc j'étais hanté par ces figures-là, les figures de la Bible, la Torah. Je raconte brièvement, parce que c'est pas le but du livre, mais en quelques pages au début, je raconte mon trajet. Et arrivé un moment où j'ai fermé le vieux livre, je me suis intéressé à autre chose, comme beaucoup de jeunes de ma génération. Je me suis tourné vers cette religion séculière qu'on appelle le marxisme, une religion anti-religieuse, parce que j'étais aimanté par le désir de la justice, le désir de l'émancipation. Puis à un moment donné, bon, j'ai perçu que je faisais fausse route, et donc j'ai rouvert le vieux livre, j'ai rouvert la Torah, mais je ne voulais pas abandonner ce désir d'émancipation humaine universelle, ce désir de justice qui est déjà inscrit dans la Torah. Et ça, ça se condense autour de la figure de Moïse, c'est la figure d'un libérateur, d'un homme qui est envoyé pour libérer des esclaves, disons des travailleurs immigrés soumis à des puissantes corvées, et pour les arracher à la servitude, pour les conduire vers une terre de justice. Donc j'ai cherché dans ce livre à découvrir comment ce désir d'émancipation et de justice peut s'inscrire dans une religion. Donc essayer de découvrir, ça peut surprendre beaucoup de gens, notamment en France, la dimension émancipatrice de la religion.
Alors pourquoi cette expression vieux livre qui peut être mal comprise? On a l'impression que c'est une antiquité, c'est quelque chose d'un vieux grimoire.
C'est ce que disait Lévinas, hein, oui. Rouvrir les vieux grimoires. Oui, c'est un très vieux livre, c'est un livre qui vient de la nuit des temps, sans doute environ 3000 ans. Et néanmoins, c'est un livre, me semble-t-il, qui est toujours profondément actuel. Et d'ailleurs, l'histoire de l'Exode était reprise, par exemple, dans le chant des Negro Spirituals, le chant des esclaves africains, Let my people go. Bon, ces Africains déportés aux États-Unis se sont identifiés aux Hébreux asservis au Pharaon. Hein, et leur désir de liberté, leur désir d'émancipation a trouvé leur répondant, leur référent dans ce vieux livre.
Alors pourquoi vous avez voulu sortir du ghetto des textes?
Oui, c'est une formule un peu provocatrice. Bon, en tant que juif d'abord et aussi en tant qu'universitaire, j'étais entraîné aux commentaires. Et puis je voulais faire cela, je voulais refaire un nouveau commentaire de l'Exode. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça va pas, c'est insuffisant. Parce qu'aujourd'hui, la tendance dominante chez les historiens, chez les spécialistes, ce qu'on appelle les minimalistes, ce sont ceux qui disent tout ça c'est un ramassis de fake news. Bon, je résume un petit peu. Bon, c'est Moïse n'a jamais existé, c'est des personnages de légende, ce sont des vieux récits qui ont été mis par écrit très tard dans une bon. Et donc finalement c'est pas très intéressant parce qu'il s'est rien passé. Et j'ai voulu réagir contre cela. J'ai voulu partir à la recherche de ce que Freud appelle le noyau de vérité historique des textes religieux. Parce que Freud, qui désignait la religion comme une illusion, reconnaissait quand même qu'il y avait dans cette illusion un noyau de vérité, qui est un noyau de vérité historique. C'est-à-dire la religion, les textes religieux, renvoient à un événement qui s'est passé, mais qui réapparaît dans ces textes de manière déformée. Alors je me suis dit, bon, la seule manière de voir ce qui s'est réellement passé, c'est effectivement de sortir du commentaire de commentaire, ce qui ne veut pas dire rejeter les textes, certainement pas. Bon, tout mon livre est un long commentaire de l'Exode, des Nombres, enfin des textes de la Torah. Mais il s'agissait de sortir du simple commentaire pour essayer de partir à la recherche de la réalité. Et c'est là que le recours à l'archéologie et l'histoire devient important. Si vous voulez, bon, on peut considérer la Bible comme un poème, comme une œuvre d'art. C'est une manière honorable de la considérer. Mais c'est vrai pour certains textes. Le chant des chants,
le
cantique de Déborah, le cantique de Myriam, éventuellement aussi les récits de la Genèse. Mais il y a d'autres textes qui parlent d'événements historiques. C'est une narration dans laquelle des personnages accomplissent des actions. Par exemple, l'Exode, éminemment. Et c'est vrai aussi, bon, des évangiles, dans le Second Testament. Alors là, dire c'est simplement un poème, refuser de s'interroger sur la réalité, de se demander si Jésus de Nazareth a vraiment existé, si Moïse a vraiment existé, s'il a fait ce qu'on dit qu'il a fait à ce moment-là, ça me paraît une manière de se replier dans une sorte de bunker, de se voiler la face devant la réalité. Donc je me suis dit, ok, voyons ce que disent les archéologues.
Pour faire le portrait d'un oiseau, disait Prévert, il faut peindre d'abord une cage avec une porte ouverte, peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Jacob Rogozinski, que faut-il faire pour faire le portrait de Moïse? J'aime que son histoire soit racontée dans le second livre de la Bible qui s'intitule Shemot, c'est-à-dire les noms. Peut-être peut-on commencer par son nom et sa filiation?
Oui, alors c'est une question très intéressante, parce que justement Moïse, c'est l'homme sans nom. Lorsque j'ai commencé à réfléchir précisément sur ce texte, il y a une vingtaine d'années environ, j'ai essayé de le relire sans préjugé. Il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, qui est tout à fait inattendu. Lorsque la Bible présente un personnage important, qu'il s'agit d'Abraham, du roi David, et bon, dans le Second Testament, la figure de Jésus de Nazareth, il y a une généalogie qui est présentée, et qui remonte très loin en arrière, vers des personnages prestigieux du passé. Dans le cas de Moïse, c'est tout à fait hallucinant. Un homme de la tribu de Lévi vient, il prend une femme de la tribu de Lévi, elle enfante un fils, elle le voit, il est beau. Alors, on ne sait pas le nom du père, on ne sait pas le nom de la mère, et même le fils n'a pas de nom à sa naissance, ce qui est totalement inhabituel. Parce que lorsqu'un enfant naît, bon, dans la Torah, très clairement, à chaque fois, le père, ou plus souvent la mère, crie son nom à sa naissance. Et ça a une très grande importance symbolique. Donc l'enfant naît, et on ne sait pas quel est son nom. Puis il est abandonné sur le Nil, selon cette histoire, cette légende. Il est recueilli par la fille du Pharaon. Il grandit. Combien de mois, combien d'années, on ne sait pas. Et puis c'est la fille du Pharaon qui crie son nom. Moshé, parce que, dit-elle, je vais tirer mes chitirous de l'eau. Ce qui est complètement aberrant. Comment la fille de ce despote qui avait juré d'anéantir le peuple, les esclaves hébreux, comment cette fille du Pharaon pourrait donner à son fils adoptif un nom tiré de l'hébreu? Ça ne tient pas la route. Alors bon, comme vous le savez, les historiens ont découvert, et ça depuis déjà assez longtemps, que Mossé, en égyptien, signifie « fils d'eux ». Donc à ce moment-là, on peut imaginer qu'il lui donnait un nom se terminant par Mossé, comme bon Ramsès, c'est Ra, Mossé, fils de Ra, du dieu soleil Ra. Voilà, peut-être qu'il s'appelait Ptahmossé, Toutmossé, on ne sait pas trop ce qui convenait à un prince d'Égypte. Alors le nom de ce dieu étranger a été effacé. Donc il est simplement Mossé, fils de X. Né sous X, sans nom, fils de X. Avec la grande question qui s'est posée dès l'Antiquité, de savoir s'il était vraiment un hébreu ou s'il n'était pas plutôt un égyptien. C'est l'hypothèse qu'a retenue Freud. Donc voilà, c'est vraiment l'homme sans nom par excellence.
Et vous, qu'est-ce que vous déduisez de cette anonymie de Moïse, du fait qu'il soit sans nom,
Jacob? Disons que ça s'inscrit dans toute une série d'éléments qui sont des déterminations au fond très négatives. Il est présenté comme sans nom, ce qui est quand même très étonnant encore une fois. Tout ce qu'on sait, c'est que ses parents sont membres de la tribu de Lévi, qui à ce moment-là est une tribu maudite, maudite par Jacob sur son lit de mort à la fin de Genèse, anonyme dans une tribu son nom. On apprend plus tard qu'il est lourd de langue, peut-être bègue, c'est possible. Il est suggéré, mais on y reviendra, qu'il est atteint d'une grave souillure liée à une maladie de peau. Et puis lorsqu'une généalogie apparaît tout à coup au chapitre 6, donc longtemps après qu'il ait reçu sa mission, qu'il ait vu le pharaon, là il y a une anomalie très étrange qui surgit. On donne le nom de son père, Amram, et on dit que Amram a épousé sa propre tante, Yokeved. Quoi qu'on puisse dire, et même s'il y a beaucoup de cas d'inceste comme ça dans la Torah, c'est quand même très surprenant, cette mention dont, selon laquelle Moïse serait le fils d'un inceste. Qu'un homme épouse sa tante, c'est quoi qu'on dise un inceste. Voilà. Donc il y a la construction d'une certaine figure narrative, la figure du personnage Moïse, qu'il présente comme profondément impur. Membre d'une tribu maudite, privé d'ascendance, peut-être lépreux, peut-être en fils de l'inceste. Donc une figure de paria, une figure d'impur, une figure de maudit. Et ça, c'est tout à fait saisissant, parce que c'est cet homme-là qui va être présenté comme un prophète et comme le libérateur des asservis. Alors c'est tout le contraire de la manière qu'ont traditionnellement les récits antiques pour présenter un héros ou un roi. Au contraire, c'est un personnage d'une très grande force, d'une très grande splendeur, etc., etc. Et ça, ça a attiré mon attention, cette énigme de Moïse. C'est par là que je suis rentré un peu dans ce texte.
Dans ce premier portrait, vous venez de l'évoquer, il y a un thème récurrent, celui de la lèpre, mot important et intéressant qui se dit en hébreu « tsaraat », un mot que l'on peut découper, selon une lecture aux éclats, comme j'aime le dire, en « tsar-et », c'est-à-dire un temps étroit, sans doute en lien avec le nom même de l'Égypte, en hébreu « mitzraïm », qui signifie la double étroitesse. Moïse est-il l'homme qui fait éclater toutes les étroitesses, tous les enfermements? Est-ce que c'est l'homme de la réinsertion des exclus, puisque le lépreux va être réintégré? Et cette expression « réinsertion des exclus » est une expression qui vous est particulièrement chère, Jacob Rogozinski.
Oui, tout à fait. Mais en vous écoutant, bon, je pense à l'étymologie du mot « angoisse ». Ça renvoie au latin « angustia », qui veut dire aussi le resserrement, l'étroitesse. Donc on pourrait dire que Mitzrayim, l'Égypte, c'est la terre de la grande angoisse. La terre, effectivement, de l'étouffement dont Moïse va libérer les asservis hébreux. Bon, s'agissant de ce terme tsaraat, il a été traduit par lépra. Bon, lorsqu'on a traduit la Torah en grec, c'est discutable sans doute, mais je rentre pas dans les détails. En tout cas, c'est une maladie de peau qui très certainement est une source de souillure. Alors, ce que montre le récit, c'est Dieu dit à Moïse, mets la main sur ton sein et sors-la de ton sein. Il ressort sa main et voilà, elle est blanche de lèpre, lépreuse comme neige, que dit le texte. Remets la main sur ton sein, dit Dieu. Il remet la main sur son sein, il la ressort, et sa main est redevenue comme sa chair. Donc c'est encore une manière de mettre en scène le passage de la malédiction à la bénédiction, très clairement. Mais alors, c'est sans doute un peu plus compliqué que ça, puisque il y avait une vieille tradition malveillante qui circulait en Égypte depuis l'Antiquité, sur laquelle, bon, les Hébreux auraient été un groupe de lépreux, qui aurait été chassé d'Égypte sous la conduite d'un prêtre renégat, lui-même lépreux, qui aurait pris le nom de Moïse. Donc il y a une manière d'associer les Hébreux et Moïse à la figure du lépreux. Donc le fait que la Torah présente Moïse comme quelqu'un qui est atteint de tsaraat, donc peut-être de la lèpre, et qui en est guéri par intention divine, c'est peut-être une manière de répondre à cette vieille calomnie égyptienne. En tout cas, ce qui me paraît très important, et ça vous l'avez souligné, c'est que bon, quand on lit par exemple Lévitique, il y a toute une série de rituels qui sont décrits de manière très précise, dont le but est de purifier les lépreux, les gens atteints de tsaraat. Et à mon avis, il s'agit d'éviter que se forme une caste permanente d'exclus. Parce que dans tous les peuples de la région, à Babylone, en Égypte, les lépreux étaient des maudits, des impurs qu'il fallait chasser et même peut-être exterminer. Comme c'est d'ailleurs était le cas au XIVe siècle en France. L'exclusion des lépreux, leur extermination, c'est tout à fait récurrent. Alors là, au contraire, dans la Torah, dans Lévitique, il y a des rituels qui sont prescrits, qui ont pour but de purifier le lépreux de sa souillure afin de le réintégrer dans la communauté. Ça me paraît un trait tout à fait essentiel de ce dispositif fondé par Moïse. Créer une communauté inclusive, une communauté dans laquelle personne n'est comme tel impur et dans laquelle personne n'est impur pour toujours.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris. Quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre fois.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco, dans une chanson écrite pour elle par Guy Béard. Je sais, Jacob Rogozinski, que cela peut étonner dans le contexte de notre conversation et que Moïse et Aaron de Schoenberg ou Nabucco de Verdi ou encore Let My People Go de Louis Armstrong auraient été plus appropriés. Mais nous avons voulu tenter ici une expérience, introduire un concept clé de la méthodologie biblique par une chanson dont les paroles nous permettent d'en mémoriser la formulation. En hébreu, cette méthode se dit « en mukdam umeuchar batorah », c'est-à-dire « il n'existe pas d'avant, il n'existe pas d'après dans la Torah », formule des plus surprenantes et des plus prégnantes, qui éveille l'esprit critique, qui remet en question la structure du texte, l'évidence de sa linéarité narrative et de l'unicité de ses auteurs, offrant ainsi une lucidité qui permet de retrouver les noyaux de réalité historique dont vous avez parlé, profondément enfouis dans l'écrin du merveilleux, des contes et des légendes qui bercent toute humanité. C'est ce qui vous a guidé, Jacob Rogozinski, pour réussir à présenter une chronologie et une histoire de cette vie de Moïse, à la fois conforme au texte biblique et en même temps totalement revisité, nous faisant découvrir ce que vous appelez, avec les historiens, la révolution israélite. Qu'est-ce que c'est que cette révolution israélite ?
Si vous voulez, là, il faut en venir à un des points qui est le plus débattu avec les historiens. Le courant dominant des historiens d'aujourd'hui, c'est minimaliste qui nie, au fond, la réalité de tout ce que raconte la Torah. C'est certain que, tel que l'Exode est présenté dans le texte, ça semble assez peu vraisemblable. C'est 600 000 hommes quittent l'Égypte avec leurs femmes, leurs enfants, leurs bêtes, etc. Donc sans doute 1 million, 1,5 million de personnes. Inévitablement seraient laissées des traces dans les archives égyptiennes. On a trouvé des papyrus dans lesquels une sorte de commissaire de police égyptien envoie un bataillon dans le désert pour attraper une dizaine d'esclaves qui s'enfuient. Alors vous pensez, 1 million, 1,5 million seraient laissées des traces. Il n'y a pas de traces. Donc là, il y a une sorte de blanc, de vide qui est tout à fait surprenant. Et en plus, il y a ce que j'appelle l'argument de Jean Valjean. Ce qu'on oublie très souvent lorsqu'on évoque ces questions, c'est que à cette époque, entre le XVIe et le XIIe siècle avant l'ère commune, Canaan était une colonie égyptienne. Donc Jean Valjean, parce que imaginez là ce héros de Victor Hugo, des Misérables, qui réussirait à s'arracher au bagne de Toulon avec une poignée d'autres forçats, qui a suivi un long périple à travers, je ne sais pas, l'Espagne, le Maghreb, serait enfin arrivé en terre promise en Algérie française. Donc l'histoire est invraisemblable. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, les minimalistes ont donc raison, c'est tout ça, c'est un peu n'importe quoi, c'est une légende, une belle légende. C'est à ce moment-là que le recours à l'archéologie devient intéressant. Alors que nous apprennent les historiens, les archéologues, vers le XIIe siècle, donc avant l'ère chrétienne. Une grave crise traverse toute la région. L'Égypte se retire de Canaan, qu'elle occupait depuis 4 ou 5 siècles. Les cités de Canaan, ces cités des petits rois qui étaient des vassaux du pharaon, ces cités brûlent les unes après les autres pendant environ 50 années. Et là, en regardant de plus près ce qui arrive à certaines de ces cités, on trouve des choses très étonnantes. On est dans une ville appelée Hatzor, qui est donc au nord de la Galilée, une ville importante. Ce qui a brûlé, c'est le palais royal et le grand temple et les belles demeures des aristocrates. Le reste n'a pas été atteint. Et en plus, bon, il n'y a pas de flèches ou de lance ou de squelette aux murailles, donc c'est pas une invasion extérieure. C'est donc pas l'armée de Josué qui aurait pris Hatzor, comme le raconte la Bible. Là, je pense que là, on est dans la reconstruction a posteriori. C'est un fake, sans aucun doute. Alors, par contre, quand on regarde de plus près, ce temple, avant d'être brûlé, a été désacralisé. Les statues des rois et des dieux ont été renversées et décapitées. Le nom d'un pharaon a été martelé sur un sphinx. Bah, ça nous rappelle quelque chose de très précis. Ça rappelle ce qu'ont fait les sans-culottes en 93 en décapitant les statues des rois sur le portail Notre-Dame et différentes cathédrales. Ça ressemble très clairement à un soulèvement populaire, ce qu'on pourrait appeler une révolution. Même chose à Megiddo, une autre très grande cité. Et là, on voit apparaître quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'était pas présent dans les textes. Il y a eu un soulèvement victorieux, qui s'en est pris à la fois aux insignes du pouvoir royal et aux dieux. Donc c'est une révolution à la fois politique et religieuse. Et une révolution religieuse est impossible si on n'introduit pas un nouveau culte. Dans cette époque lointaine, même les sans-culottes, ils ont essayé d'introduire le culte de la déesse raison, bon, sans grand succès, mais voilà. Donc cette révolution religieuse a dû coïncider avec l'introduction du culte d'un dieu nouveau, d'un dieu dont on ne trouve pas la trace dans les archives lointaines des royaumes de Canaan. Et je pense que ce dieu, c'est le dieu de Moïse, le dieu au nom imprononçable. Sans Luther, pas de réforme, sans Mahomet, pas d'islam, et sans Paul de Tarse, sans doute pas de christianisme. Je pense que chaque fois qu'une nouvelle religion surgit, il y a un homme, ou peut-être un petit groupe d'hommes, charismatiques, un homme charismatique, un meneur, qui a suffisamment d'impact pour arracher les anciens fidèles à leur dispositif de croyance, et pour introduire la foi à un nouveau Dieu. Ce Dieu, qui ne sacralise pas le pouvoir des rois, mais qui appelle les asservis, à se révolter et à lutter pour la justice, c'est très exactement le Dieu dont nous parle la Torah. C'est le Dieu de Moïse. Et donc il y a quelqu'un, venant d'on ne sait trop où, peut-être d'Égypte, peut-être de Madiane, au nord de l'Arabie, qui a introduit là le culte d'un Dieu libérateur, à la place des dieux qui sacralisent le pouvoir des rois. Et c'est sans doute ce qui a permis la victoire de ce soulèvement. Et donc là, on peut parler, comme le font certains historiens américains, d'une révolution israélite. Quelqu'un a donné sa dimension religieuse à cette révolution. Pourquoi s'interdire de donner à cet homme le nom qu'on lui donne depuis 30 siècles, le nom de Moïse? Un nom ou un surnom, peu importe. Quelqu'un a fait ça. Je pense qu'on peut l'affirmer clairement, même si on n'a aucun texte de l'époque montrant son existence.
Alors ce groupe, les historiens l'appellent les Abirou, et cette révolution israélite met en place les principes de ce que les différents auteurs d'une république des Hébreux ont souligné. Nous en avons parlé dans les 2 dernières émissions autour du livre d'Eric Nelson et dans l'émission sur Joseph Salvador, à savoir une critique de la monarchie, vous venez de l'évoquer, et des institutions centralisées. Moïse en est l'un des artisans majeurs, voire l'artisan majeur, Jacob Rogozinski. Peut-on dire que le dispositif mosaïque, de manière générale, est un contre-dispositif monarchique?
Oui, le mot Abirou, qui désigne ceux qui traversent une frontière ou un fleuve, mais aussi ceux qui transgressent un ordre ou une loi, donc on peut traduire ça par les hors-la-loi. C'est un terme qu'on trouve dans de très nombreux documents de l'époque, assyriens, hittites et autres. Bah, on pourrait traduire ça par la racaille. C'est une vieille racine sémitique qui signifie celui qui traverse une frontière ou un fleuve, et donc aussi celui qui transgresse un ordre, une règle. Donc c'est les hors-la-loi, les outlaws. Bon, c'est des groupes de un peu nomades, de différentes origines ethniques, qui se vendaient parfois comme mercenaires, ou qui parfois pillaient les caravanes, etc. Or, on a des textes un peu plus anciens, des textes qui remontent à l'époque d'Akhenaton, donc le 14e siècle avant l'ère chrétienne, dans lequel les petits rois de Canaan, qui étaient des vassaux du pharaon, envoient des lettres au pharaon pour se plaindre, pour dire oui, c'est pas possible, les Rabirou ont soulevé nos paysans, ils ont soulevé nos esclaves, ils ont fait une grande coalition, ils prennent les villes, et il tue les rois comme des chiens. Donc il y a eu un grand soulèvement conduit par ces éléments déclassés qu'on appelait les Khabirou, hein, qui s'est répandu et qui, deux siècles plus tard, a fini par être victorieux quand l'armée, l'occupant égyptien s'est retiré. Bon, Khabirou, Ivrite, c'est la même racine. Les Hébreux sont peut-être des Khabirou. Une partie des Khabirou, et ce nom insultant, hein, cette insulte, racaille, bon, a été retourné, retournement du stigmate, est devenu le nom d'un peuple qui apparaît. Donc je pense que ça va dans le sens de ce que j'appelais la révolution israélite.
Nous, quand on lit le texte, on lit Khabirou, vous prononcez Khabirou, mais vous le rapprochez de Khabirou, c'est-à-dire de Ivrite, avec un Aïn, Aïn Betresh, la racine, qui veut dire exactement la même chose, c'est-à-dire à la fois traversée et à la fois transgressée. On a pris l'habitude de dire que Abraham était un Hébreu, dans le sens qu'il traverse le fleuve.
Tout à fait. Alors, donc je pense qu'il y a des éléments que nous donne l'archéologie, qu'on ne trouve pas dans le texte biblique, qui permettent d'éclairer autrement ce qui s'est passé. Et quand j'essaie d'exposer ça dans ma communauté libérale à Strasbourg, bon, quelques années, il y a une dame qui était tout à fait consternée, qui a dit « Mais alors, la Torah nous a menti ?» Alors j'ai dit « Ah non, pas du tout, au contraire, la Torah dit la vérité, beaucoup plus que le prétendent les historiens d'aujourd'hui. » Mais elle le dit de manière légèrement transposée. Il y a réellement eu passage d'une maison de servitude à une terre promise, une terre de liberté, sans doute sous la conduite d'un homme surnommé ou nommé Moïse. Simplement, cette maison de servitude et cette terre promise sont au même endroit. Il n'y a pas eu grande migration de l'Égypte vers Canaan, il y a eu changement de régime. Ce qui est présenté comme une migration spatiale, en fait, c'est une transformation historique. Le passage de la servitude à la liberté dans le même pays. Donc l'Égypte et Canaan sont le même pays de Canaan, tantôt soumis au pharaon et tantôt libérés. Voilà, c'est l'épopée de cette libération que raconte le texte.
Et le dispositif contre-monarchique?
Ça, c'est un point très important. Je pense que le trait fondamental de ce dispositif mosaïque, ce dispositif auquel le nom de Moïse a été associé, c'est précisément la mise en cause de la monarchie sacrée. D'un dispositif politico-religieux dans lequel les rois, sont, les pharaons et autres, sont considérés comme fils du Dieu suprême, comme l'image de ce Dieu et donc comme des dieux eux-mêmes. Et ça apparaît de toutes sortes de manières. C'est en ce sens-là que je parle d'un contre-dispositif. On en trouve des traces dans d'autres passages. Par exemple, l'extraordinaire discours attribué au prophète Samuel, dans lequel les anciens du peuple viennent pour lui demander un roi qui marche devant nous comme chez les autres peuples. Et là, il répond par une mise en question claire, étonnante, du caractère oppressif, prédateur, esclavagiste de la monarchie. Bon là, c'est un texte qui est tout à fait étonnant pour l'époque. Il faudra attendre une vingtaine de siècles pour qu'on voit ce discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, on retrouve les mêmes accents. Je dirais qu'il y a un fil conducteur là qui parcourt tous ces textes, c'est le refus de la servitude volontaire. Le refus de cette manière qu'ont les hommes de se soumettre à un chef, à un maître, en le sacralisant. Je pense que l'épisode du veau d'or a aussi ce sens-là, dans la mesure où le bon veau d'or est un attribut du pharaon chez les Égyptiens. Donc c'est une manière de se, alors que le peuple a réussi à s'arracher à la servitude, de retomber en arrière et de se soumettre à l'image d'un pharaon céleste. Ça apparaît aussi dans d'autres endroits. Il y a un passage remarquable où, dans le livre des juges, où Gédéon a libéré le peuple des Madianites. Et là, les peuples me disent, deviens notre roi et règne sur nous, toi et tes enfants et tes fils. Et Gédéon répond de manière tout à fait étonnante, je ne règnerai pas sur vous, ni aucun de mes fils, votre roi, c'est Dieu. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. On voit que la place donnée à Dieu dans ce dispositif, c'est celle d'un contre-roi. Et celle d'un roi céleste qui empêche aucun homme d'occuper la place de souveraineté, d'occuper la place suprême.
Et c'est ce que vous appelez, vous, une théodémocratie.
Oui, tout à fait. Bon, c'est un terme que j'ai forgé, qui vaut ce qu'il vaut. C'est une démocratie où le caractère démocratique du régime est assuré par l'alliance avec un dieu. Et là, bon, je me suis inspiré de Spinoza, parce que Spinoza est sans doute celui qui a vu le plus clair dans son extraordinaire traité théologico-politique. Il dit qu'au moment où tout le peuple passe alliance avec Dieu, au Sinaï, hein, ils le font d'un commun accord et librement, il dit, comme dans une démocratie. Et après, bon, il développe ça de différentes façons. Et notamment, c'est un point qui m'intéresse beaucoup, parce que ça a une portée très actuelle, hélas. Spinoza fait l'éloge, donc lorsqu'il parle de cette république des Hébreux, il fait l'éloge du testament de Moïse, du dernier acte politique de Moïse, qui décide de diviser le pouvoir spirituel qu'il confie à son frère Aaron, et le pouvoir politique et militaire qu'il confie à Josué. Alors pour Spinoza, c'est vraiment le trait décisif qui montre cette république des Hébreux à un aspect démocratique. Séparation des pouvoirs. Et ça, bon, je me permets d'insister là-dessus parce que l'actualité nous montre le grave danger, la menace qui surgit lorsque, bon, un peuple qui se réclame de l'héritage de Moïse tend à remettre en question la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Là, je pense que, bon, y compris les rabbins qui vont dans cette direction en Israël, ils sont en train de trahir ce qu'il y a de plus fondamental dans la loi de Moïse. Ils trahissent un enseignement capital de la Torah. Que la loi soit distincte du pouvoir politique. Parce que si le pouvoir politique fait la loi, c'est le régime des pharaons. C'est le régime du despote, qui peut être aussi bien Staline ou Mao ou tant d'autres. C'est le régime du despote dont la parole fait loi. Et précisément, bon, la révolution israélite a pour but de briser cela, de séparer ces deux fonctions fondamentales.
Jacob Rogozinski, s'il n'y avait qu'une seule idée dont le portrait de Moïse serait le vecteur, quelle serait-elle? Ou dit différemment, s'il était possible de condenser le livre de l'Exode, voire la Torah entière en un unique énoncé, lequel proposeriez-vous?
Très simplement, bon, l'énoncé qu'on trouve à la fin du Deutéronome, qui vient conclure le dernier discours que Moïse aurait adressé à son peuple. Je te donne le choix entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Je trouve que c'est magnifique.
Merci Jacob Rogozinski pour ces premières touches tout à fait éclairantes du portrait de Moïse que je vous propose de poursuivre la semaine prochaine. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, Moïse l'insurgé, paru aux éditions du Cerf, un livre qui régale l'intelligence et rafraîchit l'esprit. Merci encore Jacob Rogozinski.
Merci à vous, Marc Anquin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Amandine Frichoux, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique, Kol Touv, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.